Radio Kapi.
Le journal, présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été soumis le 2 mai dernier aux États-Unis d'Amérique. Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain, annonce l'avoir reçu. Dans ce journal, vous suivrez aussi la confirmation du ministre rwandais des Affaires étrangères sur ce projet à finaliser par la partie américaine avant sa signature par les présidents de deux pays à la mi-juin à la Maison-Blanche. Tout policier véreux et mafieux sur toute l'étendue du territoire national devra être arrêté par l'inspectorat général de la police nationale congolaise. Ordre donné hier lundi par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des échanges sur le rôle de l'inspection générale de la police dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. Et puis vous suivrez Jean Bamanissa comme invité de ce journal. Le promoteur d'Expo Béton critique la gestion de la ville de Kinshasa. Dans une tribune, l'ancien gouverneur de province parle de la capitale de la RDC comme d'une ville sans politique de l'urbanisme ni de drainage. Bonjour à tous. Va-t-on vers la paix dans l'est de la RDC? En tout cas, les États-Unis d'Amérique confirment avoir reçu un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. L'annonce est faite par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain. Sur son compte X, il écrit, je le cite, « Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda, une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe. » Massad Boulos dit compter sur l'engagement continu de deux pays en faveur de la paix. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères affirme que les deux pays, la RDC et le Rwanda, ont bel et bien soumis le 2 mai dernier leur proposition à la partie américaine qui va finaliser un projet d'accord de paix avant sa signature par les présidents de deux pays à la mi-juin à la Maison-Blanche en présence d'autres chefs d'État. Suivez Olivier Ndungire, chef de la diplomatie rwandaise, dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
2 mai, les deux parties ont soumis leur contribution aux États-Unis, à la partie américaine, qui va consolider, qui va mettre en place et finaliser un projet d'accord de paix entre les deux pays. Nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la troisième semaine de mai pour finaliser ce projet d'accord qui aura été discuté par des experts auparavant. Et puis, on espère qu'à la mi-juin, il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump et les deux présidents concernés, mais également les présidents des pays ou des communautés qui ont joué un rôle dans la médiation, des chefs d'État, puisqu'il y a l'émir du Qatar, il y a le président togolais, bien sûr, qui est le médiateur africain, et aussi le président kenyan qui représente l'EAC, et le président zimbabwéen qui représente la SADC. Donc, on espère que si tout va bien, donc on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive dans la région.
On apprend d'autre part que les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 viennent de reprendre à Doha sous la médiation du Qatar, deux semaines après la signature d'une déclaration conjointe. Dans ce document, les deux parties annonçaient leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Ces nouveaux échanges devraient, selon la volonté des parties impliquées, permettre des avancées significatives dans le processus de paix. Martial Papi Mukeba.
Les représentants du gouvernement congolais et de la rébellion de l'AFC M23 sont arrivés à Doha le week-end à l'invitation de la médiation qatari. Selon des sources près des négociations, dimanche, ils ont échangé, bien que ces discussions soient toujours qualifiées de préliminaires, visant à établir les bases des futures négociations. À ce stade, aucune avancée significative n'a été réalisée. La rébellion de l'AFC M23 attendrait des gestes concrets de confiance de la part de Kinshasa pour faire avancer le processus. processus. Elle considérerait comme tel le retrait de ses troupes de Walikale, la publication d'une déclaration conjointe avec le gouvernement, l'autorisation de retirer les troupes de la SADC et l'air logistique de Goma, ainsi que l'accord pour les transferts à Kinshasa des FRDC et policiers qui étaient sous la protection de la MONUSCO à Goma. Si ces nouveaux échanges se révèlent fructueux, le processus pourrait progresser. Il est également important de noter que la délégation de la rébellion a été réorganisée et est désormais dirigée par son secrétaire exécutif, Benjamin Bonimpa, acteur clé des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 en 2013. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, à Kisangani, 31 victimes du conflit intercommunautaire Mbole-Lengola viennent de saisir la justice. Elles ont introduit hier lundi au tribunal de grande instance une requête au sujet des crimes contre la paix, la sécurité et l'humanité. Sont donc accusées la République démocratique du Congo, la province de la Tchopo ainsi que la société Cap Congo. Pour Maître Patrice Akala, un des avocats des victimes, ces actions initiées devant les juges compétents devront aboutir à une indemnisation judiciaire qui est différente de l'indemnisation administrative. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Dans cette requête, nous avons démontré devant le tribunal que les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis dans les conflits Mbole-Lengola a causé des victimes. Nous les avons amenés devant le tribunal de grande instance afin que le tribunal qui est compétent puisse les reconnaître d'abord ces statuts de victimes. Ce jugement que le tribunal va rendre va permettre maintenant que ces victimes puissent initier des actions judiciaires contre la République démocratique du Congo, la province de la Tchopo et contre la société Cap Congo que nous, avocats, considérons des auteurs de ces crimes afin que le tribunal puisse condamner ces trois personnes à la réparation. Il y a une différence entre indemnisation administrative qui peut se faire avec toutes les structures étatiques dont Fonarev et il y a une indemnisation judiciaire. Nous sommes dans l'indemnisation judiciaire. L'ONG Sauti Alubunga s'occupe d'identification des victimes afin de les renvoyer devant les instances étatique pour une indemnisation administrative. L'indemnisation administrative elle-même ne suffit pas.
Outre cet échantillon qui était hier devant la justice, plusieurs autres centaines de victimes du conflit Mbole-Lengola seront envoyées presque chaque semaine devant les tribunaux de grande instance de Kisangani pour la même démarche, précise Maître Akala. Depuis Kinshasa, le président de la République appelle les journalistes à une conscience professionnelle, particulièrement dans le contexte sensible que traverse le pays actuellement. Félix Tshisekedi l'a dit hier lundi au cours d'une journée de la presse organisée par le ministère de la Communication et Médias en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai. Cette journée a été célébrée sous le thème « Le journaliste congolais face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise ». On écoute le président Félix Tshisekedi dans cet extrait que nous propose Étienne Lissoumbou.
J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux.
Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, instruit l'inspecteur général de la police nationale congolaise d'arrêter tout policier véreux et mafieux sur toute l'étendue du territoire national. Ordre transmis hier lundi lors de la cérémonie d'ouverture de 4 jours d'échange sur le rôle de l'inspection générale de la police dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. Participent à ces échanges qu'appuie la société Intelligence Global Consulting, les cadres et commandants de la PC ACR, l'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, l'Association des conducteurs des motos et les inspecteurs de l'IGPNC. Reportage, Billy Ivan Lutumba.
Ces actes qui ternissent, qui salissent l'image de la police, la tontine, l'Ikelemba, les haricots des enfants, Madesu Yabana. Certaines agences provoquent intentionnellement des embouteillages.
Ces actes attribuables aux agents de la PCR tels que les énumère Jacquemin Chabani, ministre de l'Intérieur, demeurent sans le dire le ventre mou de tout effort que mène l'IGPNC pour édorer l'image de la police. Un regret partagé par son commandant Mouchi Diav qui justifie la tenue de ce recyclage.
Après plusieurs missions de contrôle et d'évaluation des comportements des éléments déployés dans les différents carrefours de la ville de Kinshasa, nous avons compris la nécessité d'organiser cet atelier avec vous. La circulation routière dans les artères principales de la ville de Kinshasa pose problème.
Circuler à Kinshasa constitue désormais un calvaire. Alors, au nombre des solutions, le ministre de l'Intérieur ordonne.
Monsieur l'inspecteur général, j'en demande plus, j'en demande encore plus et j'en veux plus. La circulation sur nos routes ne sécurise plus. Alors, monsieur l'inspecteur général, arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux.
Autre piste des solutions, Chabani recommande aux associations des chauffeurs et conducteurs de motos de discipliner davantage leurs membres qui excellent aussi dans l'irrespect du code de la route.
Restons à Kinshasa. Des cas de braquage, vol et assassinat ciblés des cambistes s'observent de plus en plus dans la capitale depuis un moment. Une situation jugée catastrophique par le député national de l'ancien Bitini Talabao. L'élu de Bulungu Kwilu appelle les autorités compétentes à travailler pour arrêter ces criminels et à les déférer devant la justice. Il est au micro de Kaki Akiwa.
Nous avons constaté depuis un moment les opérateurs économiques évoluant dans les domaines fiduciaires, en l'occurrence les cambistes, sont victimes des braquages et des assassinats ciblés. Tout cela se passe au vu et au su de tous. Ces gens-là, ils volent, ils tuent à longueur de journée et ils passent, malgré les embouteillages que nous connaissons actuellement dans la ville de Kinshasa en particulier, ces criminels pillent, emportent l'argent des cambistes et tuent sans être arrêté par les forces de sécurité ou par la population. C'est ainsi que nous venons interpeller la conscience des autorités, notamment le ministre ayant la sécurité, l'intérieur entre ses mains, le ministre de la Défense et les anciens combattants, ainsi que le ministre de la Justice, de pouvoir travailler en commun pour arrêter cette éruption des assassinats, pour arrêter ces malfrats et les déférer devant la justice.
Dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, 10 acteurs de la justice militaire et de la police judiciaire prennent part depuis hier lundi à un atelier organisé par la section d'appui à la justice de la MONUSCO, animé par des experts de la cellule d'appui aux poursuites de Kinshasa. Pendant 3 semaines, les participants vont être formés pour être capables de recueillir et exploiter des cyberinfractions et comprendre le mode opératoire des cybercriminels, ce qui leur permettra d'être en mesure de déterminer les circonstances d'un crime, identifier ses auteurs de sorte à mieux éclairer l'autorité de jugement. Ils devront aussi arriver à mieux comprendre les cadres juridiques international, régional et national pour la lutte contre la cybercriminalité. Le commandant Rafer Anouche de la MONUSCO, expert en investigation numérique et formateur principal, revient sur cet atelier au micro de Guylaine Cassassier.
Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des formations qui ont été préparées et élaborées conjointement avec les autorités militaires judiciaires, soit de la haute cour militaire, de l'auditorat général des FARDC, pour parler sur le cadre technique et juridique de la cybercriminalité. Donc la cybercriminalité, c'est l'ensemble des actes qui agissent sur soit les réseaux et systèmes d'information de communication qui sont utilisés pour la commission d'un crime. Donc là, sur la cybercriminalité, ce sont des cyberinfractions qui sont menées sur le cyberespace et on va essayer durant toutes les formations de définir l'ensemble des cyberinfractions, des modes opératoires des attaquants et la législation, comment elle peut faire face à ce type d'infraction. On essaie de voir l'ensemble des autorités judiciaires, militaires et civiles de la RDC. À la fin de la formation, on aimerait bien que ces gens savent d'abord le cadre juridique, comment sont ces cyberinfractions, comment poursuivre ces cyberattaquants, surtout à l'ère du numérique, et comprendre les différents articles qui agissent sur ce domaine.
La province de l'Ituri a enregistré plus de 200 cas de mortalité maternelle en 2024, ce qui fait d'elle l'une des provinces du pays où le taux de mortalité maternelle et néonatale reste élevé. Face à ce défi, des sages-femmes ont échangé hier lundi avec des étudiants qui ont choisi ce métier sur les mécanismes pouvant réduire sensiblement ce fléau. C'est dans le cadre d'un séminaire de renforcement des capacités à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme hier 5 mai. Depuis Bounia, Sadiq Aboubakar.
Au moins 70% des cas de mortalité maternelle et néonatale sont dus aux mauvaises conditions et qualité de référencement des malades en provenance des structures médicales à la périphérie. C'est ce que déclare la docteure José Wanichan, responsable de l'association des gynécologues en Ituri. Il y a aussi l'absence des sages-femmes ou personnel qualifié dans plusieurs maternités de la province, ajoute Boumareta, présidente de l'association des sages-femmes en Ituri.
Parce que les décès qui surviennent, ce sont des décès évitables. Nous parlons de la gestion des urgences. Et ces urgences-là, si on n'est pas compétent, on ne saura pas l'identifier. Et c'est comme ça que les décès arrivent.
Il se pose également le problème des prises en charge des sages-femmes par le gouvernement, qui bénéficie pourtant de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Brigitte Omari, son responsable en Ituri.
Et nous, comme partenaires, ce que nous faisons, c'est de pousser notre plaidoyer et de montrer au gouvernement l'utilité de ces prestataires pour lutter principalement à la mortalité maternelle qui est de plus en plus en hausse, notamment en Ituri, voire ailleurs.
Rappelons que le gouvernement provincial de l'Ituri a financé, il y a quelques mois, 20 bourses pour des étudiants sages-femmes en difficulté de paiement de leur scolarité. Bounia. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
L'invité. La ville ne se construit pas dans le chaos ou le désordre dans lequel nous sommes plongés. C'est en ces termes que Jean Bamani Sassaïdi, promoteur d'Expo Béton et ancien gouverneur de province, critique le désastre dans lequel vit ces jours Kinshasa, sans politique urbanistique ni de drainage, dit-il. Dans une tribune interrogative intitulée « Kinshasa, capitale des travaux éternels », on refait « Donc on avance ». L'homme d'affaires et politique analyse les causes de l'effondrement des infrastructures routières dans la ville et propose quelques pistes de solutions. Jean Bamanissa s'entretient avec Jeff Ngoy.
Bonjour Jean Bamanissa.
Oui, bonjour Monsieur Jeff.
Pourquoi Kinshasa est devenue la capitale des travaux éternels que vous décriez dans votre tribune?
Kinshasa, effectivement, on se rend compte que on revient toujours sur le même travaux. Et je dois commencer par le premier point. Pourquoi? Comme vous le dites, pourquoi? C'est parce que il n'y a pas une planification solide. En termes techniques, il aurait fallu d'abord que les grands axes soient dégagés. C'est vrai que plutôt en 2007-2008, certains grands axes comme l'avenue 24 novembre, boulevard, l'avenue Lumumba jusqu'à l'aéroport ont été agrandis avec un système de canalisation qui n'a finalement pas été très efficace parce que n'ont pas été reliés à des égouts et à des canaux qui existent déjà ici en ville qui auraient pu déporter ces eaux-là vers des réservoirs ou vers le fleuve. Là, c'est une des premières causes au niveau technique. Mais aussi, la deuxième cause, c'est que les travaux se font sans, comme on l'a dit dans la tribune de Expo Béton Newsletter, sans qu'il y ait eu une étude sérieuse de conditions dans lesquelles les travaux devraient être exécutés. Et c'est juste un appel ou même pas une passation de marché qui est fait. Et nous décrions, beaucoup l'ont déjà dit, nous ne sommes pas les premiers à le dire, qu'il y a plutôt une recherche à la surfacturation et les matériaux, puisque ces contrats subissent une forte pression de la rétrocommission en général, et la preuve c'est que de moins en moins nous voyons des panneaux qui indiquent quels sont ces contrats qui ont été faits, et aussi qui indique les montants de ces travaux.
L'IGF parlait également de conflits d'intérêts lors des états généraux de la justice. Comment corriger ces failles lorsque les responsables des entreprises s'attribuent le marché entre les membres des familles?
Vous parlez de l'IGF qui est au courant, oui. L'IGF me l'a dit un jour que les contrats de travaux publics sont de 40% plus chers par rapport à ce qui se fait. Et donc il faut le corriger et je pense qu'il faut aussi interpeller les entreprises qui font les travaux pour dire à un moment, mais messieurs, refusez toute rétrocommission. Faites vos prix, parce que sinon, c'est vous qui allez, comme je l'ai entendu par le président de l'Assemblée provinciale, honorable Bouy, le dire deux, trois fois. Ces entreprises sont connues, il faut qu'on aille savoir pourquoi est-ce que la qualité des travaux ne suit pas.
Et que fait-on exactement de toutes les recommandations issues d'Expo Béton dont vous êtes promoteur?
Alors, les recommandations d'Expo Béton, nous les faisons. Nous portons haut la voix. C'est vrai que nous sommes une plateforme qui analyse les questions et qui les analyse aussi de façon ouverte, comme cette question d'infrastructure qui est plus que nécessaire. Et ça a été aussi de remettre dans la tête des dirigeants et des citoyens que les infrastructures sont nécessaires. Et donc, il faut de plus en plus taper sur la table pour dire les infrastructures doivent être mieux faites. Nous avons des recommandations qui sont suivies. Il faut l'entendre même de la bouche du chef de l'État qui dit qu'il suit. Il y a un nouveau ministère qui a été mis en place par rapport à ce que nous avons demandé. Le ministère de la politique de la ville qui doit aider les entités territoriales décentralisées à s'organiser pour que nous puissions avoir des villes qui vivent avec un plan. Mais c'est une sensibilisation à tous les niveaux qu'il faut.
Pensez-vous que la simple sensibilisation suffit ou il y a une autre solution beaucoup plus durable à cette problématique d'infrastructure à Kinshasa?
Aujourd'hui, vous voyez tout le mauvais urbanisme où ça nous a emmenés. Eh ben, il faut une sensibilisation plus forte pour qu'on comprenne que la ville ne se construit pas dans le désordre ni dans le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés et à continuer à le faire encore plus mal. Une solution, par exemple, pour les infrastructures, je l'ai dit lors de mes dernières interventions, il nous faut beaucoup d'argent. Kinshasa a à peu près 3500 km de route à reconstruire et il faut le faire solidement avec des réseaux de drainage.
Je vous remercie.
Merci pour votre attention.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Debs Vita, le tout sous la coordination et la supervision de Pélé Kipelamondo.